J'ai une très bonne question pour vous. Comment est-ce qu'un croyant doit accueillir un non-croyant? La Bible va nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. La Bible va répondre à des questions très différentes les unes des autres aujourd'hui. Je crois que ça va être vraiment intéressant. Les voici. Est-ce que nous devons donner la première place à Christ dans notre vie? Que dit Jésus concernant nos peurs face aux intempéries de la vie? Que dit la Bible concernant des gens qui pourraient être possédés du démon? Jésus avait-il le pouvoir de pardonner les péchés quand il est venu sur la terre? De quelle manière un croyant doit-il accueillir un non-croyant? Nous aurons les réponses que donne la Bible dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main, il est prêt à nous les donner. Demandons à Dieu de nous aider à saisir le sens de tout ce bon enseignement. Prions. Ô mon Dieu, on ne veut pas prendre pour acquis que tu nous enseignes ta parole. Tu nous l'enseignes à tous les jours, mais on veut être touché par toi à tous les jours. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Parle-nous profondément. Dans toute la profondeur que tu désires utiliser pour nous. Instruis-nous, Seigneur. Fais-nous comprendre tes voies. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus-Christ est descendu de la montagne où il a prêché le sermon sur la montagne. Et maintenant, Matthieu nous montre que Jésus a la puissance nécessaire pour nous faire vivre conformément aux principes du sermon. Nous avons vu que Jésus a guéri un lépreux en le touchant, et il a guéri le serviteur du centenier. Il n'est pas allé à son chevet, mais il l'a guéri de loin. Il a guéri aussi la belle-mère de Pierre. Ensuite, la foule lui amena de nombreux malades et de nombreux possédés. Il a chassé les démons. Débutons notre lecture, Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Une grande foule suivait Jésus. Il a guéri des milliers de personnes, pas juste quelques individus. Jean confirme ce fait dans son évangile. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Au moment où il allait monter dans la barque, un homme s'approcha de Jésus. Verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Le scribe était probablement un jeune homme, car je doute qu'un homme plus âgé ait agi de cette façon. Le scribe devait se trouver parmi la foule, hésitant à suivre Jésus ou non. Il ne savait pas quelle décision prendre. Alors, il a aperçu Jésus qui se préparait à partir de l'autre côté de la mer, et il a dû se décider rapidement. Il s'est avancé et il a dit à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Le jeune scribe avait pris sa décision et Jésus lui répondit en toute franchise. Verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » En fait, Jésus lui demandait s'il avait pris le temps de réfléchir au coup qu'entraînerait le fait de le suivre. Sur terre, le Seigneur était pauvre. Le jeune homme avait ouvert son cœur, donc Jésus ouvre aussi le sien. J'imagine qu'il lui a dit quelque chose du genre. « Me suivre te coûtera quelque chose. Lorsque nous allons dans une ville ou un village, nous n'avons pas de réservation au Hilton ou au Holiday Inn. Nous n'avons aucun endroit où demeurer. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus était pauvre, et cette pauvreté faisait partie de la malédiction qu'il a portée pour nous. La Bible ne nous dit pas que le jeune scribe a suivi Jésus. J'ai toujours pensé qu'il l'a fait. Lorsque le bateau a pris la mer, un jeune homme qui avait pris la décision de suivre Christ s'y trouvait. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Voici un autre jeune homme qui a décidé de suivre Christ, mais il veut premièrement enterrer son père. Cet incident est souvent très mal perçu. Nous avons l'impression que le vieil homme vient juste de mourir et que la famille se préparait pour un service funèbre. Alors, les paroles de Jésus nous semblent très dures, sans compassion. Verset 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Que voulait dire exactement Jésus? Comment les morts peuvent-ils ensevelir leurs morts? Le docteur Adam Smith, un spécialiste de la culture du Moyen-Orient, a écrit plusieurs livres très instructifs. Il raconte un incident alors qu'il avait voulu embaucher un guide arabe. Il a expliqué où il désirait se rendre, et on lui a recommandé un jeune homme dans un village. Le docteur Smith se rendit dans ce village et trouva le jeune homme afin de l'embaucher. Le jeune homme a répondu, « Je dois d'abord enterrer mon père. » Le père du jeune homme se trouvait là, assis devant sa hutte et plein de santé. Ce que le jeune homme disait, c'était qu'il devait s'occuper de son père jusqu'à ce qu'il meure. Le fils était responsable de son père. Jésus a simplement dit aux disciples de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de son père ou de laisser celui-ci s'occuper de lui-même. Jésus n'était pas sans compassion lorsqu'il a répondu à son disciple. Le Seigneur désirait que ce jeune homme prenne une décision. Allait-il lui donner la première place dans sa vie? Lorsque le jeune homme a pris sa décision, le Seigneur lui a probablement dit de retourner chez lui et de s'occuper de son père. Le docteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a connu une jeune chrétienne dont le père était un grincheux impossible à contenter. Elle devint missionnaire et alla exercer son ministère dans un autre pays et elle fit du bon travail. Lorsqu'elle revint en visite après plusieurs années, elle trouva son père malade. Il n'était plus autonome. Il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui, et il accusa sa fille de l'avoir abandonné et de ne pas être une chrétienne, une bonne chrétienne. Son père n'était pas chrétien, donc elle est demeurée avec lui afin de pourvoir à ses besoins. Pendant qu'elle s'occupait de lui, il fut touché et il s'est converti. Je suis certain que la main de Dieu était dans tout cela. Mais elle devait premièrement décider si Christ aurait la première place dans sa vie. C'était probablement aussi le cas de ce jeune homme dont Jésus nous parle. Poursuivons notre lecture, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Maintenant, nous examinons le cinquième miracle. Ce miracle n'est pas une guérison, mais il démontre la puissance de Christ sur la nature. Verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ceci n'était pas une tempête ordinaire. Notez que Jésus dormait. C'est une scène très humaine dont Matthieu nous trace le portrait. Jésus était si épuisé que même une tempête ne pouvait pas l'empêcher de dormir. Nous remarquons une autre chose. Jésus pouvait dormir dans une tempête. « Je ne le peux pas, car je suis nerveux pendant une tempête. » Les disciples aussi était très nerveux. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons !» Les disciples avaient peu de foi. Remarquez comment Jésus a réagi à la situation. Verset 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il reprocha aux disciples leur manque de foi. Ensuite, il menaça le vent et la mer. Ici, le mot « menacer » signifie « museler ». Jésus contrôlait les vents et la mer comme nous contrôlons un chien avec une muselière. La mer s'est calmée. Quoique les disciples aient démontré leur peu de foi lors de cet incident, vint un jour où la tempête de la persécution les atteignit. Nous ne trouvons aucun registre qui indique qu'un d'eux ait crié « Seigneur, sauve, nous périssons ». Écoutez plutôt la prière qu'ils ont adressée à Dieu lors d'une persécution. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Le livre des Actes, chapitre 4, verset 29. Pour eux, l'important était maintenant d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Nous avons besoin d'un tel courage et d'une telle conviction de nos jours. Remarquez l'impression profonde qu'a laissé ce miracle sur les apôtres. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Le sixième miracle est merveilleux. Nous n'entrerons pas dans tous les détails, mais des démons furent chassés. » Verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Jésus arrive dans le territoire de Gadara, tel qu'on le nomme encore aujourd'hui. Ce sont les gens de la tribu de Gad qui vivaient à cet endroit. Dans l'Ancien Testament, lorsque le territoire fut divisé entre les tribus d'Israël, la tribu de Gad est demeurée du mauvais côté du Jourdain. Qu'est-il arrivé? Ils se sont lancés dans l'élevage des porcs, ce qui était interdit aux Juifs. Une fois que tu fais un pas de désobéissance, le pas suivant n'est pas difficile à faire. Avant longtemps, tu te trouveras entièrement hors des voies de Dieu. Deux démoniaques vinrent aussitôt vers Jésus. Ces hommes étaient dangereux, puisqu'ils étaient possédés par des démons. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ce miracle touche un domaine que nous connaissons peu de nos jours. Parce que nous en savons peu sur les démons, nous ne saisissons pas toute la portée de ce miracle. Personnellement, je pense que chasser les démons furent ses plus grands miracles. Versets 30 et 31. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Pour une certaine raison, les démons aiment habiter les corps matériels. Ils étaient prêts à habiter dans le corps de porc. Verset 32. Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Plusieurs sont possédés de démons de nos jours. Aux époques de Moïse, d'Élie et du Seigneur Jésus, des gens furent témoins de manifestations du monde surnaturel. De nos jours, nous voyons de plus en plus de manifestations démoniaques. Nous en voyons beaucoup. Il y a plusieurs preuves. Certains cas sont moins certains, et il y a toujours le danger de se tromper. Soyons prudents avant de dire qu'une personne est possédée du démon, et ne devenons pas des chasseurs de sorcières. Cependant, il y a de vrais cas de possession démoniaque. certains spécialistes pensent que certains cas de problèmes psychologiques sont en fait des cas de possession démoniaque. Versets 33 et 34. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ne trouvez-vous pas cela ironique? Ces gens préfèrent leur peur à Jésus-Christ. Malheureusement, ce n'est pas seulement le cas des Gadaréniens. Il y a bien des gens qui préfèrent leur peur, ou bien matériel, à Jésus-Christ. Ou leur vie paisible, à leurs yeux, plutôt que de vivre de grands changements dans la présence de Christ. Maintenant, nous sommes rendus au chapitre 9. Nous avons vu 6 miracles dans le précédent. Dans ce chapitre, Jésus fait encore des guérisons. Il ressuscite un mort, ce que j'appelle un miracle surnaturel, et il chasse un démon, un miracle spirituel. Débutons notre lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 1er. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Jésus quitte le territoire où sa présence n'est pas désirée et il retourne à Capernaum. Verset 2. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » L'évangéliste Marc nous raconte que cet homme fut descendu par un trou fait dans le toit, car la foule était trop nombreuse dans la maison. Le Seigneur lui a pardonné ses péchés en plus de le guérir. Verset 3. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Les scribes ne pensaient pas que Jésus pouvait guérir le paralytique. Connaissant leurs pensées et leur cœur, Jésus leur posa une question. Versets 4 et 5. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Les scribes n'ont pas répondu à la question. Ils auraient dû répondre qu'à leurs yeux, l'un était aussi difficile que l'autre. Versets 6 et 7. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Lorsque le paralytique marcha, cela a démontré que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mes amis, nous ne pouvons pas pardonner les péchés. Seul Jésus a le pouvoir de le faire. Puisque nous ne pouvons pas pardonner les péchés, nous ne pouvons pas faire de guérison. Satan est un menteur. Il faut bien examiner ceux qui prétendent avoir le don de guérir. N'intervenons pas dans le travail de Dieu et assurons-nous que Dieu y reçoive toute gloire. Verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Matthieu donne peu de détails au sujet de son appel. Par contre, l'évangéliste Luc en donne davantage. Matthieu a organisé un festin en l'honneur de Jésus. L'incident qui suit s'est passé lors de ce repas auquel furent invités les amis collecteurs d'impôts de Matthieu. Matthieu désirait qu'il fasse aussi la connaissance de Jésus. Versets 10 et 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela. Ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Les pharisiens refusaient de manger avec les publicains et les pécheurs. Beaucoup de chrétiens ont malheureusement la même attitude aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à inviter un pécheur à dîner, car c'est eux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il faut que nous ayons des contacts avec les pécheurs. Verset 12. Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Jésus est le médecin divin qui vient guérir les gens de leur véritable mal, le péché. Les cliques de chrétiens qui se réunissent pour manger et se réjouir sans inviter les pécheurs devraient prendre note de cela. Souvent, si des invités non-croyants se présentent, ils ne sont pas toujours accueillis chaleureusement. Certains chrétiens pêchent à cause des raisons et de l'attitude avec laquelle ils se réunissent. Verset 13. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus cite le prophète Osée, chapitre 6, verset 6 de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a dit qu'il n'était pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, cela aurait pu inclure les pharisiens qui étaient de grands pécheurs. En fait, nous en sommes tous, car la parole de Dieu déclare, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Les disciples de Jean-Baptiste l'observaient. Certains des disciples de Jésus avaient déjà été des disciples de Jean. C'était le cas de Philippe et d'André. Donc, les disciples de Jean remarquaient que les disciples de Jésus se comportaient de façon différente d'eux. Le Seigneur va nous présenter un grand principe et révéler le fait que ce sera bientôt une nouvelle dispensation. C'est-à-dire une autre tranche de temps dans le plan divin. Ce détail est très important, et nous en parlerons à la prochaine émission. Chers amis, le Seigneur vient de nous révéler qu'il est l'être le plus puissant, qu'il est le seul, l'unique, à posséder le pouvoir de guérir non seulement le physique, s'il le veut, mais aussi le pouvoir de guérir l'âme, c'est-à-dire de la rétablir dans ses fonctions, de lui redonner la santé morale et spirituelle. Dans l'Évangile, toujours selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, nous lisons, et voici cette belle invitation qui vous est offerte à chacun d'entre vous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Oui, chers amis, voici l'invitation de l'Évangile d'aller vers Jésus afin d'implorer son aide, afin d'implorer le miracle que nous devons tous vivre, recevoir le pardon de nos péchés, et par le fait même de nous libérer de ce lourd fardeau que notre âme ne peut supporter. Chers amis, demandez à Jésus, aujourd'hui même, qu'il vienne accomplir son miracle pour vous, de vous délivrer de vos péchés. Voilà le plus grand des miracles que seul Christ peut accomplir dans votre vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 14, jusqu'au chapitre 10, verset 8.
Merci, Régent. Je suis toujours touchée de voir comment Jésus agissait avec les gens de mauvaise vie, avec les gens qui ne le connaissaient pas. Quel exemple il est pour nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous qui avons cru en son nom. Nous qui avons reçu ce cadeau de la vie éternelle. Il y a toujours un danger, hein, qu'on se sente trop bien parmi le peuple de Dieu, puis qu'on oublie où est-ce que le Seigneur est venu nous chercher. Comment on était avant de recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas sauvés parce qu'on était meilleurs que les autres. Si je me regarde, par exemple, je pourrais dire que j'étais parmi les pires pécheurs de la terre. et pourtant le Seigneur a été ému de compassion pour moi. Et la personne qui m'a fait connaître Jésus m'a accueilli chaleureusement chez elle pour me faire du bien, pour m'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'était pendant une période de ma vie où le péché m'avait amené tellement bas que je voulais même plus vivre. J'avais fait une tentative de suicide. J'avais une vie complètement démolie. Et je suis arrivée là, et cette femme aurait pu me regarder avec mépris. Elle savait quelle sorte de vie je menais. Et elle a été bonne envers moi. Elle m'a fait du bien, elle m'a même fait à manger. Elle m'a emmené me baigner dans sa piscine. Puis elle s'est mise à me parler joyeusement de choses et d'autres pour enfin m'annoncer qu'il y avait un sauveur merveilleux qui m'aimait. Moi qui avais cherché l'amour toute ma vie. Et j'ai découvert Jésus à travers cette femme qui m'a aimé, qui m'a donné tout ce que j'avais besoin de savoir pour connaître l'amour de Dieu. Et je remercie Dieu de l'avoir mise sur ma route et de m'avoir annoncé la bonne nouvelle à travers elle. Elle a fait envers moi ce que Jésus a fait envers la Samaritaine au puits. Il est allé vers elle, puis il connaissait toute sa vie, il connaissait tout d'ailleurs. Et puis, il lui a parlé, et quand ils ont fini leur conversation, elle est partie toute joyeuse, puis elle disait à tout le monde, « Venez voir celui qui connaissait tout de moi, qui m'a dit tout ce que j'avais fait. » Alors, Jésus est allé vers elle, et la dame est venue vers moi pour m'annoncer la bonne nouvelle. Alors, il ne faut pas mépriser les gens autour de nous. Il y a toutes sortes de gens, de toutes sortes de classes, de toutes sortes de races, de toutes sortes de religions. Et ils ont tous besoin du même Sauveur. Ils ont besoin de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si on ne va pas leur dire, personne d'autre va le faire. Dieu a choisi ce moyen pour annoncer sa bonne nouvelle. C'est par ceux qui l'ont déjà reçu. Et il ne faut pas avoir peur. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors quand on arrive près des gens, on a juste à désirer leur annoncer la bonne nouvelle. On a à ouvrir la bouche, à leur parler, à leur dire ce que Jésus a fait pour nous. Et il va faire la même chose pour eux. Il va leur donner le cadeau de la vie éternelle.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.